Alors, Yves Cornebord, on va continuer de dérouler le fil de votre histoire. Après 5 années passionnantes passées au Ritz, donc dans les cuisines de Christian Constant, eh bien, vous vous retrouvez, pour des raisons de licenciement économique, ancré soudain dans le réel, au restaurant La Marée, dans le 8e. Là, vous allez découvrir ce qui sert vraiment à devenir un patron. J'aimerais bien savoir si tous les grands chefs ont des âmes d'entrepreneurs. Il n'y a pas de grand chef qui n'ait pas en réalité le sens des affaires.
Non, je pense qu'il y a, oui, il y a pas mal de grands chefs qui n'ont pas le sens des affaires.
Oui,
il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui, quand on a la chance de travailler voilà, dans des très grandes maisons avec des moyens et pas une obligation de rentabilité.
Oui, là, on est comme un peu pris en charge.
Voilà, on est quand même pris en charge et donc, on peut aller au bout de son expression, des fois même excessive autant autour du produit ou de l'art de la table.
Alors, après le restaurant La Marée, donc, vous avez été recruté par la Tour d'Argent, restaurant mythique qui fait fantasmer les touristes fortunés. Et alors là, Yves Cornebord, désillusion totale, désillusion absolue. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais j'ai été recruté. Voilà, à l'époque, c'était un transfert entre le restaurant La Marée et la Tour d'Argent, 3 étoiles Michelin. Donc moi, c'était un peu un rêve. Ouais. Un rêve, surtout que j'allais voilà, d'un restaurant mythique de la gastronomie, de l'histoire de France. Et malheureusement, c'était monsieur Claude Terraille, qui était un monsieur exceptionnel, qui était déjà quand même très âgé, et qui n'avait pas évolué, j'ai envie de dire, par rapport à la restauration, quoi, qui était encore restée sur des schémas très classiques de 30 à 40 ans en arrière. Mmh. Donc on a été un peu déçus par rapport aux prestations qu'on réalisait. C'est très délicat d'en parler parce que c'est un monsieur que je respecte énormément et c'est un restaurant qui est magnifique, mais c'est vrai que ça avait été une grosse déception technique et personnelle par rapport au lieu.
Alors, à la Tour d'Argent, vous étiez en charge des sauces, n'est-ce pas ? Bon, le saucier, c'est un magicien. C'est vraiment l'alchimiste des saveurs, le saucier.
Oui, c'était le poste le plus important. Quand on est arrivé à être chef saucier, c'était quelque part pour nous le Graal avant de passer sous-chef ou de passer chef.
Ah oui ?
Parce que la sauce dans la gastronomie française a une importance primordiale et le monde entier nous envie. Voilà, de la façon dont on a traité voilà, ces préparations qui sont très délicates, qui sont très soigneuses et qui souvent font l'âme du plat.
Est-ce que les goûts ont beaucoup évolué en matière de sauce et d'accommodement depuis 30 ans ?
Oui, ça a énormément évolué. Il y a eu une très très grosse évolution, je dirais, depuis les années 80-85 avec la nouvelle cuisine, avec toute la bande de ces grands cuisiniers français, les Michel Guérard, les Roger Verger, les Alain Chapelle, qui ont eu l'intelligence de dire que la sauce était une des références de la cuisine française, mais qu'il fallait faire des sauces beaucoup plus onctueuses et beaucoup plus légères, moins riches. Mmh. Voilà, parce qu'aussi, le gastronome a changé. Si on prend le gastronome des années 80, c'était un monsieur qui allait manger au restaurant et qui pesait pas loin de 100 kilos.
Et aujourd'hui, il est filiforme.
Et il est filiforme, et qui faisait la sieste après. Aujourd'hui, l'homme d'affaires, le gastronome vient et doit travailler derrière. Donc, il continue à manger quand même la quantité, mais c'est une quantité qui est beaucoup plus équilibrée et tout en légèreté.
C'est pour ça que tout à l'heure, on va évoquer le gras intelligent, justement. D'abord, continuons par rapport à votre parcours, Yves Cornebord. Dès que Christian Constant a été nommé au Crillon, place de la Concorde, donc l'un des plus anciens, des plus prestigieux palaces au monde, vous avez foncé le rejoindre, c'est-à-dire vous avez quitté donc la Tour d'Argent. Et 4 ans plus tard, Christian Constant vous a encouragé à monter votre propre affaire, donc loin du protocole des palaces et de la gastronomie étoilée. Et pour ça, comme il croyait très très fort en vous, il vous a prêté de l'argent.
Ouais,
c'est comme ça qu'a pu naître la régalade.
Oui, c'est comme ça qu'est née la bistronomie. Hein. Sans cet apport financier, je pense que la bistronomie ne serait peut-être pas née, ou je ne sais pas si quelqu'un l'aurait réalisé. Oui, j'avais en moi l'esprit du vagabond, déjà l'esprit un peu de liberté. Là, même si je pense que je réalisais ma partition au Crillon à 200% de mes moyens, je respectais les règles, et j'étais vraiment l'employé modèle, le petit soldat modèle qui s'investissait pour la maison.
C'est pour ça que c'est très audacieux d'aller suivre son parcours loin des étoiles, loin de cette gloire-là académique.
Ouais, je ne sais pas si c'est audacieux en fin de compte, parce que pour moi c'était bien au contraire, c'est pas de l'audace, au moins c'était vraiment de la réalité.
Ouais.
J'étais conscient que j'avais besoin d'être moi-même. Je n'avais pas envie d'être le sous-chef de l'hôtel Crillon.
Mais vous êtes allé poser en fait vos valises du côté de la Porte d'Orléans. Ça aussi, ça a dû surprendre le monde de la gastronomie.
Alors celle-là, par contre, c'était un pari osé, mais il y avait des critères pour moi qui étaient primordiaux. C'est que je voulais impérativement un petit appartement au-dessus, parce que je savais très bien que j'allais m'investir et que ça allait être ma vie Donc je voulais que ma famille soit vraiment à côté de moi et vive aussi avec la même intensité, le même bonheur, le lieu. Et je voulais aussi une cuisine de plein pied. Parce que je ne voulais pas me retrouver à Paris. Bien souvent, les cuisines sont dans les caves.
Ah oui.
Où elles sont décalées. Je voulais de plein pied parce que je voulais instantanément pouvoir dire bonjour, aller embrasser, aller rigoler, aller partager avec le client. Pour moi, c'était presque le plus important, c'était ça. La cuisine, peu importe si j'avais elle était toute petite, ça ne me dérangeait pas du tout. Elle était très mal équipée, je disais, c'est pas grave, je me débrouillerai. Mais je voulais garder le contact. Voilà. Les petits mots sympathiques, voilà, ça nous galvanise et ça nous permet d'exister. Et ça, pour moi, c'était indispensable.
Alors, ce bistrot La Régalade, il était à une adresse inattendue, effectivement, du côté de la Porte d'Orléans. Vous serviez des recettes de restaurants étoilés dans des assiettes de bistrot. Mais ça vous a valu une réputation internationale, parce que le monde entier est venu vous voir.
Oui, oui, totalement. On a été un peu, j'ai totalement été dépassé par le succès, parce que je n'y attendais pas du tout. Et comme je le dis, quand on me dit tu as créé, je dis, vous savez, je n'ai pas créé grand-chose, je n'avais rien écrit, j'ai simplement fait ce que je pensais qui était bien à faire. Et on a eu, voilà, il y a eu un boom autour de cette maison.
Ils sont venus vous voir, les grands chefs étoilés?
Oui, oui, tout le monde est venu. Oui,
tout le monde est venu.
J'ai le droit à tout le monde, que ce soit tous les grands chefs étoilés, toutes les stars françaises et internationales. J'ai eu des émotions. Aimé Jacquet m'a amené la Coupe du Monde après l'avoir gagnée.
Ah oui.
J'ai eu des choses assez incroyables dans un lieu qui était quand même très très simple, très anodin, et où on faisait une cuisine en toute simplicité.
Eh bien, cet après-midi, on se balade en compagnie de l'empereur de la bistronomie, Yves Candebordes, qu'on retrouve dans un instant. Europe 1.